France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur Platon et la politique. Ce matin, nous parlons des dialogues de sa période dite de la maturité, le tête-à-tête, le sophiste et le politique, en nous demandant ce qu'il faut savoir pour gouverner, selon Platon. Ces trois dialogues, on les considère souvent comme une trilogie. Le récit dans ces dialogues indique une certaine unité de temps. À la fin du tête-à-tête, le personnage de Socrate, mis en scène par Platon, dit qu'il doit partir s'occuper de la plainte contre lui déposée par Mélétos, celle qui produira son procès puis sa mort. Dans le Sophiste, on retrouve les personnages du tête-à-tête et il est dit qu'on est là encore à quelques semaines du procès. Socrate, alors, a une curieuse façon de passer la main à un étranger qui interroge les autres comme lui-même a l'habitude de le faire. Socrate paraît se retirer déjà. Le dialogue, le politique, semble être la continuation directe du sophiste, comme si la discussion s'enchaînait simplement. L'étranger est toujours là, qui interroge, dans le rôle classique de Socrate, mais cette fois apparaît parmi ses interlocuteurs un certain Socrate le jeune, comme une figure renouvelée d'un Socrate qui a déjà un peu quitté cette vie, mais aura toujours de jeunes disciples formés par le dialogue philosophique. Quant au fond, beaucoup de choses sont dites dans ces trois dialogues, mais à l'évidence, un axe central est la question du savoir qu'il faut posséder et mettre en œuvre pour faire de la politique et notamment pour gouverner. Comme si Platon précisait dans cette période de maturité son idée des philosophes rois développés dans la République. Et comme si Platon dénonçait encore et encore les faux semblants, les faux savoirs typiques de ces faux philosophes que sont les sophistes et tous leurs émules. Bonjour Charlotte Murger.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie ancienne, en particulier de Platon et d'Aristote. Aristote, disciple de Platon, qui a donc vécu, quant à lui, au milieu du 4e siècle avant notre ère. Et il y a un livre de vous, Charlotte Murger, qui creuse cette filiation perturbée. C'est publié chez Vrin. Et bonjour Anthony Bonnemaison.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi spécialiste de philosophie ancienne, maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes. Votre thèse de doctorat portait sur la difficile démarcation dans la pensée de Platon entre la figure du philosophe et celle de ses contrefaçons, enjeu central donc dans les dialogues de la maturité que nous explorons ce matin. Alors nous verrons en avançant dans la discussion qu'un certain nombre de problèmes apparaissent. Le vrai chef politique pour Platon est est-il finalement un pasteur qui veille à satisfaire les besoins de son troupeau? Est-il un tisserand qui fait se combiner ensemble les apports de chacun? Ce sera un des enjeux au moment où nous parlerons du dialogue le politique. Mais pour commencer, voici un passage du tête-à-tête. Platon, à travers un propos de son personnage Socrate, semble évoquer le désintérêt qu'a tout philosophe véritable pour les affaires de la cité. C'est un peu surprenant pour un grec.
Ceux qui perdent leur temps dans la quête du savoir, ceux-là, oui, depuis leur jeunesse, d'abord ne savent pas le chemin pour se rendre au lieu de l'assemblée, ni où se trouve le tribunal, le conseil, ni un autre lieu où la cité s'assemble en commun. Lois et décrets, que ce soit au moment où ces assemblées en parlent, ou une fois promulguées, ne frappent ni leur vue ni leur ouïe. Les efforts des partis pour s'assurer les magistratures, leurs réunions, les repas, les fêtes qu'ils organisent avec des joueuses de flûte, même en rêve, cette activité ne leur vient pas à l'esprit. Et l'un d'entre eux connaît-il le bonheur ou le malheur dans la cité? Ou l'un d'entre eux a-t-il quelque handicap qui lui vient de ses ancêtres, soit par les hommes, soit par les femmes? Il en est plus ignorant que du nombre de pintes, comme on dit, contenues dans la mer. Et tout cela, il ne sait même pas qu'il ne le sait pas. Car ce n'est même pas pour le plaisir d'être tenu en haute estime qu'il s'en désintéresse. C'est qu'en fait, son corps seul gît dans la cité. Il y réside en étranger. Sa pensée, qui tient tout cela pour peu de choses et même pour rien, en éprouve du dédain.
Du dédain ! Charlotte Murger, pour les affaires de la cité, ça va être difficile d'intéresser le philosophe à ses affaires si son premier mouvement est celui du dédain. pour Platon.
Oui, effectivement. D'ailleurs, dans la République, il fallait forcer les philosophes à redescendre, puisqu'ils avaient des intérêts plus hauts que ceux des affaires humaines. Donc, il y a bien l'idée que le philosophe, en découvrant l'intelligible, les formes, quelque chose qui dépasse l'être humain, en quelque sorte.
En sortant de la caverne, puisque c'est la métaphore, n'est-ce pas, voilà, de la République.
Eh bien, il a du mal à y retourner. Hein. Cela étant, on voit aussi que là, ce qu'il dédaigne, c'est pas forcément l'humain en général, ce sont plutôt l'humain dans ce qu'il a de petit, des affaires politiques dans leur petitesse, puisqu'il s'agit d'intrigues, puisqu'il s'agit de divertissements futiles. Voilà, ce n'est pas peut-être la partie la plus noble de la politique qui est ici dédaignée.
Revenons un instant à la République, si vous le voulez bien, Anthony Bonne-Maison aussi. Est-ce finalement en premier le philosophe qui a du dédain pour les autres quand il revient dans la caverne où les humains contemplent les illusions et les ombres, alors que lui a touché l'essence des choses, les idées du bien, du vrai, etc. Ou est-ce que ce n'est pas le contraire? C'est-à-dire, c'est aussi, en tout cas aussi, l'ensemble des autres citoyens qui n'apprécient pas ce retour du philosophe. Est-ce que ce sont les deux choses? Laquelle est première?
Alors, je dirais que, je ne sais pas s'il y en a une qui est première sur l'autre, mais les deux interagissent et renforcent la difficulté jusqu'à en faire un authentique paradoxe, puisqu'effectivement, le mouvement premier, c'est que les philosophes, par définition, désirent connaître et désirent saisir ce qu'est chaque chose en elle-même, dans son essence. Et donc ça les pousse avant tout à un désir qui est orienté vers la connaissance, et tout ce qui peut les en écarter sera perçu hein, comme un fardeau. Donc c'est pour ça qu'effectivement il faut les contraindre à redescendre par devoir. Hein, on va pas les contraindre non plus sous la menace. Ils vont comprendre que c'est nécessaire, mais leur désir les poussera à autre chose. Et c'est pour ça que ils vont alterner le pouvoir dans la République quand c'est possible. Et dès qu'ils auront formé, entre philosophe, roi ou reine, dès qu'il y en aura de nouveaux qui seront formés, les autres pourront aller paître dans les prairies bienheureuses, comme dit le texte,
faire de la philosophie. Reines.
Oui, il y a des philosophes reines dans la République de Platon. C'est une des grandes thèses qui est affirmée au début du livre 5, une des grandes thèses paradoxales, les trois vagues, c'est-à-dire les grandes mesures paradoxales qui vont susciter leur flot de moqueries. Donc pour revenir aux propos, d'un côté, le philosophe, il est obligé, et il est même obligé pour bien gouverner, de ne pas avoir envie de gouverner. C'est un des paradoxes constitutifs de la pensée politique de Platon, parce que comme ça, il a une chance de ne pas se corrompre.
Sinon, et les autres, alors, comment ils le voient?
Et alors le problème, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté un problème d'image constitutive du philosophe aux yeux de l'opinion, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas philosophes. Parce que je pense que pour Platon, on peut vraiment comprendre ce que c'est qu'être philosophe et ce qui fait la différence entre un philosophe et ses contrefaçons, comme un sophiste ou un démagogue, que quand on fait de la philosophie. Et donc le problème, c'est que de l'extérieur, le philosophe, Socrate par exemple, bah, il apparaît comme quelqu'un qui ou bien fait de la politique, on le prend pour un oligarque, on le prend pour ou pour un sophiste. À ce moment-là, ça revient au même, on va le condamner. Donc il y a un problème constitutif dans le politique qui lui revient. Hein. Il y a un problème d'image du philosophe qui est structurel. Et qui fait que c'est pour ça que l'idée d'un philosophe gouvernant ou gouvernante est extrêmement difficile à réaliser pour Platon.
Mais est-ce que vraiment les autres le voient comme un sophiste? Parce que j'ai quand même cru comprendre que les sophistes qui aiment flatter, qui s'occupent des jeunes gens pour leur apprendre la rhétorique, pour leur apprendre à exercer le pouvoir en étant aimé, les sophistes sont eux-mêmes assez aimés, justement. Ils sont payés par les grandes familles, c'est leur métier d'enseigner la politique. Justement, est-ce que le philosophe n'est pas davantage source d'hostilité que les sophistes habituels? Et sur ce point, personne ne s'y trompe. Ce n'est pas un sophiste. Et c'est aussi pour ça qu'il agace, non?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que les sophistes sont à la fois extrêmement admirés, mais le rapport de l'opinion est aussi très ambivalent au sophisme. C'est-à-dire qu'un Grec va peut-être se précipiter quand Protagoras arrive dans la ville pour écouter ses leçons, mais lui-même ne veut pas devenir sophiste. Et on a un certain nombre de personnages dans les dialogues de Platon, par exemple Calliclès dans le Gorgias, qui expriment leur mépris pour les sophistes. Alors, cette méfiance vis-à-vis des sophistes, méfiance paradoxale, parce qu'en même temps, un certain nombre de Grecs, encore une fois, se précipitent et paient très cher leur leçon. Oui. Je vais y revenir. Mais cette ambivalence, elle est liée au fait que le sophiste est un personnage itinérant. Donc, il n'est pas attaché à une cité. Il passe de cité en cité, et ça le rend déjà suspect. Il se fait payer. Ce qui n'est pas bien vu, hein. Un homme libre n'est pas un salarié. Et puis, il est aussi soupçonné de remettre en cause les valeurs traditionnelles. Et c'est là que la méfiance vis-à-vis du sophiste et vis-à-vis du philosophe se rejoignent. C'est-à-dire que le philosophe, en mettant les croyances, en soumettant les croyances à l'examen, remet aussi, lui, en cause les valeurs traditionnelles. Et donc, il peut y avoir une confusion dans l'opinion entre cette figure du sophiste et du philosophe, parce que tous les deux se revendiquent un rôle d'éducateur.
Oui.
Et aussi parce que, par leur mode d'argumentation, ils vont conduire à remettre en cause les valeurs morales traditionnelles, et donc ils sont perçus comme une menace par une partie de la société athénienne.
Alors revenons à la répugnance du philosophe face à la cité qui préférerait être tranquille et faire de la philo sereinement dans un certain retrait du monde. Est-ce que c'est une quête de liberté ? J'emploie ce mot à dessein parce que nous avons vu cela dans le premier épisode. La liberté, c'est aussi quelque chose que Platon critique, comme la satisfaction de ses désirs de manière souvent insatiable. Et justement, c'est tout le mal qu'il voit dans la démocratie, où chacun cultive sa liberté. Alors certes, pas toujours dans le retrait de la cité, mais dans la cité, pour Platon, ça produit l'anarchie. Mais est-ce que c'est une sorte de liberté, positive ou négative ? Je vous remercie de me répondre, Anthony Bonne-Maison, c'est ça, Bonne-Maison ? Que c'est une sorte de liberté et une sorte de jouissance que cherche le philosophe, des choses qui seraient peut-être, dans son cas, un peu moins mal vues par Platon ?
Alors, en tout cas, effectivement, la philosophie chez Platon est associée à une forme de plaisir et même aux formes les plus hautes et les plus plaisantes, en fait, de plaisir, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle les plaisirs purs, c'est-à-dire ces plaisirs qui sont purement des plaisirs, qui sont associés à la philosophie, là où les autres plaisirs sont toujours mêlés, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Donc, la philosophie, oui, c'est associé à un véritable plaisir et à une véritable liberté, puisqu'encore une fois, chez Platon, n'est pas contre la liberté, mais il veut qu'on entende correctement, selon lui, ce que ça veut dire être libre. Être libre, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire la licence, parce qu'à ce moment-là, on est plutôt esclave d'une partie de nous-mêmes, la partie la plus irrationnelle, où on est esclave en fait de l'opinion, des discours politiques, etc. Et donc la véritable liberté, pour lui, elle est associée à la philosophie, et c'est justement ce qu'il y a là dans ces pages du Théétète qu'on a lu, puisque ça, ce qui introduit ce passage-là, cette digression, c'est l'idée de loisir. Le philosophe, c'est celui qui vit dans le loisir, c'est-à-dire qui n'est pas tout le temps pris par le temps. Au contraire, les hommes politiques, donc ceux qui l'opposent aux philosophes, sont toujours pris par le temps. Alors, ils donnent l'image dans les tribunaux, il y a la clepsydre, l'horloge à eau, qui décompte le temps imparti à l'accusation, à la défense. Et puis, plus largement, quand on est pris dans les affaires politiques, on est toujours affairé dans l'urgence, etc. Donc, il y a cette liberté constitutive du philosophe qui est, au contraire, de pouvoir s'affranchir de ce cadre, de cette urgence, parce que c'est la condition pour pouvoir penser correctement, se donner tout le temps dont on a besoin pour aborder une question. Et c'est ça qui va l'opposer fondamentalement à la politique, en tout cas telle qu'elle se pratique, mais qui pose du coup la question de ce que devient le philosophe ou de la façon dont son activité, elle doit être peut-être transformée quand on lui donne un rôle politique.
Alors cette digression au sein du dialogue Le Théétète a fait couler beaucoup d'encre chez les commentateurs de Platon. On peut citer en particulier aujourd'hui Thomas Benatoui, le professeur de philosophie ancienne à l'Université de Lille, qui a publié en 2020 chez Vrin un ouvrage intitulé « La science des hommes libres, la digression du Théétète ». Quant à vous, Charlotte Murgier, Est-ce que vous pouvez préciser ce qui est important dans cette digression ? Personnellement, là, ce que j'entends, mais je ne suis pas du tout sûre de moi, et surtout ça soulève plein d'autres questions, j'avoue, c'est que tout ce qui était négatif, appliqué aux autres hommes, la quête de liberté, qui est le mal de la démocratie pour Platon, la quête de jouissance, qui est dangereuse pour Platon, tout cela est maintenant renversé et est donc positif pour le philosophe.
Alors, effectivement, c'est renversé, mais le sujet a changé, puisque les choses qui étaient les plaisirs et les préoccupations du politique, des hommes politiques communs, ils sont liés donc au caractère humain incarné de ces politiques. Or là, la liberté dont il est question, c'est une liberté de la pensée. Le philosophe, c'est celui qui vit pour la pensée, et les plaisirs qu'il recherche sont les plaisirs de la pensée. Ce que dit bien cette digression, le philosophe habite comme les autres par son corps la cité, mais sa pensée est ailleurs. Donc dans cette digression, il y a une apologie, une défense de ce qu'on appellera plus tard la vie contemplative, par laquelle, en un sens, le philosophe va s'extraire de la vie humaine ordinaire pour penser, pour... alors chez Platon, contempler les formes intelligibles, hein, il est dans une autre dimension. Et c'est ça qui permet aussi le renversement.
Entendu. Mais est-ce que c'est cela, justement, ce bonheur qu'il trouve à philosopher ? Au fond, c'est comme dans les dialogues. Ils sont dans cet état, tous, Socrate, Théétète, Théodore, puis l'étranger, sans doute, accueilli pour faire la même chose. C'est ça, l'amitié philosophique, le logos philosophique, pour parler comme les Grecs, en acte, où on réfléchit, etc. C'est ça qui explique que revenir à la vie normale, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, Anthony Bonnemaison, est insupportable.
Oui, c'est surtout que les affaires humaines, c'est-à-dire la politique telle qu'elle se pratique, le jeu des factions, le jeu du pouvoir, etc. En fait, pour Platon, ça ne peut que nous corrompre. C'est-à-dire, il y a une sorte de pente inhérente, de corruption inhérente à l'exercice du pouvoir, quelles que soient nos idées, nos intentions préalables. L'exercice du pouvoir corrompt parce que on est nécessairement porté à un moment à agir pour conserver le pouvoir et non plus pour ce qui devrait être la seule fin de tout exercice du pouvoir, c'est-à-dire pour le bien commun de la cité et non pas d'une partie, d'une faction. Donc c'est avant tout ça l'enjeu pour Platon, ce qu'on pourrait voir comme un dédain des affaires politiques. En réalité, c'est prendre conscience de ce que ça cause à notre âme pour Platon. Et ça nous corrompt, sauf si, comme peut-être dans la République, on essaie de mettre en place une politique qui soit d'un tout autre ordre et dans laquelle on puisse échapper à cette corruption, échapper au jeu de pouvoir et viser peut-être un bien qui soit vraiment commun.
Alors, il me semble qu'un des enjeux de la digression, mais c'est peut-être ailleurs, enfin c'est vraiment vous les spécialistes, mais je pose des questions qui sont souvent suscitées par le Théétète. Il me semble qu'il y a une réfutation de l'idée « l'homme est la mesure de toute chose », qui est une idée formulée par le sophiste, Protagoras, qui a donné d'ailleurs son nom à un des dialogues, un des tout premiers dialogues de Platon dont nous avons parlé lundi. L'homme est la mesure de toute chose. Pour Platon, non. Et lorsqu'on s'adonne au plaisir de philosopher dans le retrait du monde, c'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose, c'est au contraire un lieu, une pratique dans laquelle on se mesure à autre chose que soi.
Oui, c'est ça. Alors, c'est en fait, Platon va renverser l'adage protagoréen « l'humain est la mesure de toute chose ». Ça sera dans les lois qui va le faire explicitement, mais c'est présent ailleurs. Le Dieu est la mesure de toute chose, puisque en fait, à la fin de sa digression, là, du Théétète, il nous dit que être heureux, au fond, c'est quoi ? C'est essayer de s'assimiler autant que possible au divin, à une condition divine. Donc, effectivement, on a vraiment une opposition entre l'homme mesure de Protagoras et la divine mesure de Platon. Et ce passage-là, juste pour le recontextualiser un petit peu dans le Théétète, effectivement, c'est une des réfutations que Platon propose à la théorie de Protagoras. On a une série d'arguments très théories complexes, conceptuelles, pour savoir si vraiment on peut dire que toute vérité est relative à celui à qui elle apparaît, etc. Et ici, on a une réfutation sur un mode plus existentiel. C'est-à-dire le genre de vie qui sont associés à chaque théorie, en fait, à chaque conception de la réalité.
Est-ce que ça veut dire aussi que un bon homme politique, puisque c'est quand même le philosophe dédaigneux qui, pour Platon, quand il ose y aller, le philosophe est le bon homme politique. Est-ce que ça veut dire qu'un bon homme politique, c'est quelqu'un pour lequel les individus face à lui ne sont pas la mesure de toute chose ? Le but n'est pas uniquement de satisfaire immédiatement ce qu'il formule. Il faudrait donc, si je comprends bien, que la cité se réfère toujours à quelque chose au-delà d'elle, des idéaux, du bien, du juste. Il ne faut surtout pas être dans la vision des choses de Protagoras qui fait de l'homme la clé, le critère, le centre. Est-ce que c'est ça, être un bon politique parce qu'on est un bon philosophe, Charlotte Murgier?
Oui, alors effectivement, pour Platon, la politique est une science. Une science implique la connaissance d'une vérité, et donc les valeurs, comme la justice, doivent avoir une objectivité, une vérité qui est absolument incommensurable au point de vue particulier, contingent des individus ou des cités. Hein, puisque, effectivement, si les valeurs sont relatives à telle cité, eh bien, il suffit que le rapport de force politique change et la définition de ce qui est juste et de ce que la loi va instituer comme juste va changer. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une objectivité des valeurs. Et de ce point de vue-là, il faut aussi changer ce à quoi les politiques s'intéressent dans l'être humain, c'est-à-dire non pas la particularité, encore une fois, des intérêts contingents, mais à la nature de l'homme, hein, puisque c'est ce que va faire Platon dans d'autres dialogues que dans le Théétète, hein, être politique, c'est aussi comprendre ce que c'est que l'être humain, sa nature, les différents types d'âmes, comment les assembler.
Les forcer un peu, on est d'accord, pour ne pas qu'elles soient auto-centrées.
Oui, en tout cas, les éduquer.
Les éduquer, non mais
les éduquer, effectivement.
Ça veut dire, elles ne doivent pas se prendre pour elles, pour la mesure de toute chose. Et ce que j'entends aussi, bon, il faut quand même le souligner, c'est que, oui, nous avons d'autres philosophes du politique, des choses politiques, nous disent que le juste, ça bouge, ça change, que les opinions font évoluer des principes, qu'il y a de l'histoire, le présent d'aujourd'hui invente des choses par rapport au présent d'hier. Tout ce mouvement de la cité, quand même, c'est pas ce qui intéresse Platon. Platon pense qu'il y a des principes premiers, intangibles, éternels, pour gouverner.
Effectivement, la justice est une forme intelligible, et donc à ce titre, elle est vraie et éternellement vraie. Donc le juste ne peut pas changer. Après, la question qui reste plus complexe est comment on va incarner cette justice dans des prescriptions particulières, dans des lois. Et là, bon, on peut imaginer qu'il peut y avoir un peu plus peut-être de souplesse, mais la justice en soi, le principe de la justice, est objectif et immuable.
Quel savoir faut-il avoir pour gouverner ? C'est notre question aujourd'hui. Enfin, c'est à Platon qu'on la pose. Nous évoquons trois dialogues de la période de maturité de Platon. Donc, il n'est plus tout jeune. Il complexifie sa pensée par rapport à la thèse des philosophes rois. Nous parlons du Théétète, du sophiste, du politique. Et puisque nous venons d'évoquer la cité qui change, qui bouge dans ses envies, dans ses principes, Platon n'aime pas beaucoup cela. Il pense qu'il y a de l'éternel, et de l'intangible en matière de principes. Ceux qui aiment tout changer en écoutant tout le monde, l'opinion, etc., ce sont plutôt les sophistes. Eh bien, écoutez, dans Le Sophiste, cette fois-ci, le traitement que Platon réserve à ces faux philosophes que sont les sophistes.
En quoi peut consister le prodige propre à la faculté sophistique ?
Quel prodige ?
La manière dont ils sont capables de donner aux jeunes l'impression qu'ils sont en toute chose plus savants que tous les hommes. Car il est évident que si leur discours contradictoire n'était pas valide, ou n'apparaissait pas comme tel aux jeunes gens, Et si, alors même qu'ils apparaissent comme tels, leur habileté dans la controverse ne les faisait pas de surcroît sembler pleins d'intelligence? On consentirait difficilement, comme tu disais, à leur donner de l'argent pour devenir leur élève. Or, on y consent.
Et comment ?
À mon avis, c'est parce qu'ils donnent l'impression d'être savants sur les sujets à propos desquels ils contredisent. Or, ils font cela sur toute chose, selon nous.
Oui.
Donc, ils apparaissent comme savants à leurs élèves.
Bien sûr.
Sans l'être toutefois, car il est apparu que c'est impossible. C'est un savoir apparent sur tout que le sophiste nous est apparu posséder, et non pas un savoir réel. Donc, à propos de cet individu qui assure être capable de produire toute chose au moyen d'un art unique, nous savons, je pense, ceci. Il réalisera, grâce à son art de peindre, des imitations et des homonymes des choses qui sont. Et il sera capable de faire croire à ceux des jeunes enfants qui sont le plus dépourvus de raison, en leur montrant ses œuvres de loin, qu'il est parfaitement capable d'accomplir pour de bon tout ce qu'il veut.
Cette très jolie voix qui incarne quelque chose comme Socrate, interrogeant son adversaire ou son compagnon, comme on voudra, tête, c'était celle de Anaïs Isbert de France Culture. Alors, en vérité, comme je l'ai dit au début de l'émission, elle n'est pas Socrate. Elle est, enfin je veux dire cette voix, elle est l'étranger. C'est intéressant que Socrate, peut-être au bord de finir sa vie, comme s'il savait dans les dialogues de Platon ce qui se passera après, c'est-à-dire le procès et sa mise à mort, cède la place à un étranger. Cet étranger ressemble-t-il vraiment absolument à Socrate, Anthony Bonnemaison?
Ah oui, effectivement, ça, c'est une grande question, enfin c'est un grand débat parmi les spécialistes d'essayer de donner sens à cette substitution de locuteur principal, puisque Socrate est là, et c'est quand même lui qui lance le sophiste à partir d'un jeu de confusion, parce que Théodore arrive avec cet étranger, lui dit il est philosophe, etc. Et Socrate commence à dire, mais il est quoi du coup? C'est quoi un philosophe? Il y en a qui disent que c'est des sophistes, il y en a qui disent que c'est un homme politique. Donc Socrate, il a un rôle de semer la confusion au début du dialogue, et l'étranger... Dans tout le sophiste et le tête-à-tête, il va avoir pour rôle de lever cette confusion en disant, en essayant de distinguer le philosophe du sophiste et du politique. Et dans le sophiste, tout l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à dissocier le philosophe du sophiste.
Est-ce que c'est si difficile de distinguer le philosophe du sophiste compte tenu de tout ce qu'a déjà écrit Platon au moment où il écrit le sophiste?
Eh ben en fait oui, enfin en tout cas moi je pense que oui, parce que ici dans les passages qui ont été lus, on retrouve effectivement une critique qu'on trouvait déjà dans La République par exemple autour de la notion d'imitation sur laquelle on pourra revenir, mais cette idée que le sophiste c'est un imitateur, alors il imite non pas avec des images picturales comme les peintres visuels, mais avec des mots, parce que les mots pour Platon, hein, le langage c'est une image des choses, quand on parle on donne une certaine image d'autres réalités, et à travers son art du discours, son art de manier les mots, le sophiste produit des imitations, mais des imitations trompeuses. C'est la distinction entre deux types d'imitations sur laquelle on pourra revenir. Et donc ici, on retrouve cette critique-là, qui est en quelque sorte bien connue. Mais en fait, là, on n'est même pas à la moitié du dialogue. Parce qu'après, Platon, justement, je pense que c'est sa grandeur, va montrer que cette critique, à la fin, on va la retrouver, elle va être actée, ce sophiste, comme un imitateur qui produit des simulacres de savoir. Mais il va falloir tout un long détour ontologique, très complexe, sur qu'est-ce que c'est l'être, le non-être, est-ce qu'on peut parler de non-être, etc., pour la fonder. Et ça montre, à mon avis, que pour Platon, c'est pas si facile de se détacher de la sophistique, parce qu'en un sens, la sophistique, vous en avez parlé hier avec Gorgias, par exemple, le traité du non-être, oui, a une réflexion métaphysique extrêmement poussée. Elle ancre ses thèses et ses positions sur de vraies difficultés philosophiques. Et donc, Platon va devoir les surmonter pour pouvoir, à la fin, donc 30 pages plus loin, acter cette critique de la sophistique.
Cette difficulté tient-elle, Charlotte Murger, au fait que lorsque le philosophe se mêle de politique, encore une fois, il fait un peu contre son envie naturelle, eh bien, qu'il le veuille ou non, il s'occupe de choses particulières, il s'occupe de gens qui ont des intérêts, des envies, pas forcément très nobles, des gens qui sont dans l'opinion. Et au moment où il s'en occupe, il peut donner l'impression de faire exactement ce que font les sophistes. Il va traiter tout cela avec distance, il essaye de rapporter tous ses désirs troubles à des belles idées que lui connaît, mais dans sa pratique, ça ne se voit pas toujours immédiatement la différence entre le philosophe et l'odieux sophiste.
Alors, effectivement, je pense que le point de confusion principal tient à leur manière de manier le langage, puisque le sophiste et le philosophe ont en commun d'argumenter. Alors, sur tout sujet, ça peut être les affaires politiques, ils vont être capables de construire des arguments, de mettre à l'épreuve des arguments, et c'est là que la confusion est maximale. Et d'ailleurs, dans le sophiste, une des définitions du sophiste a l'air, le sophiste comme réfutateur, nous fait en quelque sorte, c'est Platon est au sommet de son art et de la confusion qu'il sème, a l'air de nous faire le portrait du philosophe et même du philosophe qu'est Socrate, puisque Socrate est connu pour réfuter, soumettre les croyances à l'examen et montrer que son interlocuteur n'est pas capable de les tenir, n'est pas capable d'en rendre raison, se contredit. Et donc ce portrait du sophiste comme réfutateur est tellement proche du philosophe qu'à ce moment-là, l'étranger recule. Il nous dit que là, c'est la noble sophistique ou la sophistique de noble lignage, ce qu'on cherchait comme sophiste, en fait, c'est quelqu'un, c'est sans doute pas le sophiste, mais que philosophe et sophiste se ressemblent comme chien et loup, le loup étant l'animal prédateur, celui qui, effectivement, sait contredire et faire se contredire, et le chien étant le philosophe, l'animal qui est ami de l'homme et au service de l'homme, et non pas au service de buts mercantiles intéressés et de visées prédatrices.
Et en même temps, il ne faut pas trop être au service de l'homme, puisque l'homme n'est pas la mesure de toute chose, non ? Puisque ça, c'est une phrase de Protagoras que Platon déteste.
C'est vrai, mais pas enfin, au service de ce qui est noble dans la nature humaine, c'est-à-dire sa raison, l'idée, son âme, le propre du philosophe, et ça, Platon et Socrate le dit aussi dans le Gorgias, c'est d'avoir soin de l'âme. Il s'occupe de l'âme et il s'agit, et Socrate exhorte ses concitoyens à avoir soin de leur âme. Donc, voilà.
Et l'âme sait, elle, qu'il y a des choses au-dessus d'elle.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Alors, on va parler maintenant du politique, ce dialogue qui suit, véritablement, vraiment, le récit est clair. On a l'impression qu'ils embrayent, ils passent d'une discussion à l'autre, entre le sophiste et le politique. On va retrouver l'étranger, mais face à lui, un petit Socrate le jeune, vous m'expliquerez cela aussi. C'est très touchant, je trouve, comment Platon fait sortir de scène Socrate en laissant des disciples, etc. La question quand même préalable à la lecture que nous allons entendre, je voudrais vous poser cette question. Puisqu'il s'agit de savoir comment vraiment vont travailler les philosophes au pouvoir, puisque Platon, on va l'entendre, dit qu'ils sont en quelque sorte des rois, donc ils gardent le point qu'il évoquait dans La République, les philosophes rois. Est-ce que déjà ce pauvre, parce que ça va apparaître dans Les Lois, son dernier texte, mais est-ce que quand même à un moment de cette période de maturité, Platon s'interroge sur comment ils vont arriver au pouvoir ? Est-ce qu'il faut des élections ? Est-ce que des élections, c'est auprès de gens qui sont dans la doxa et l'opinion, c'est pas du tout sûr qu'ils élisent des philosophes. Qui va les nommer ? Enfin, excusez-moi, mais un peu concrètement, est-ce que cette question émerge dans la réflexion de Platon avant qu'il arrive à son dernier ultime texte, donc Les Lois ?
Alors, elle est posée, mais elle ne trouve pas vraiment de solution, puisque dans La République, ça va reposer sur la chance, sur un heureux hasard. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est parce qu'il n'y a pas de raison structurelle pour qu'on élise, par exemple, des philosophes, parce que par définition, une foule ne les prendra pas au sérieux, ne comprendra pas pourquoi ils gouverneraient mieux que les autres. Dans Les Lois, vous en parlerez demain, il y aura cette... cette idée qui est évidemment choquante pour les Athéniens comme pour nous, qu'il pourrait se produire qu'un tyran raisonnable prenne dans son entourage rencontre un législateur savant. Mais en somme, Platon laisse toujours cette question-là du passage à un possible règne d'un philosophe ou de quelques philosophes. À un certain hasard, parce qu'encore une fois, il y a rien qui l'appelle. Par contre, pour lui, si la difficulté, ça serait de mettre en place un régime comme ça, si jamais ça advenait, sûrement par hasard, ou peut-être qu'un roi, un jour, quelqu'un qui a déjà le pouvoir, se trouverait aussi devenir philosophe, pouvoir devenir philosophe, c'est une possibilité. Si ça advenait, il y aurait une sorte de preuve par les effets pour Platon. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, si vraiment on voyait ce que c'était, le règne de quelques philosophes, on verrait que c'est incommensurable avec les politiques d'aujourd'hui. On comprendrait ce que ça veut dire vraiment des gens qui prennent soin de l'ensemble de la cité.
Alors je vous propose qu'on essaie de comprendre pourquoi ça ferait tellement de différence. Qu'est-ce que c'est que cette science royale qu'auraient les philosophes. Voici donc un extrait du Politique où l'étranger, qui est un peu le personnage socratique, s'entretient avec un être plus jeune, un petit Socrate le jeune. Écoutez.
Celui qui possède la science royale, qu'il exerce le pouvoir ou non, n'en doit pas moins recevoir le nom de roi.
Merci de me l'avoir rappelé. Il suit de là, j'imagine, que la droite forme de l'autorité, c'est en une seule personne, en deux ou en quelques-unes tout au plus qu'il faut la chercher, quand cette droite forme existe.
Oui, sans contredit.
Oui, et ces individus, qu'ils exercent leur autorité avec ou contre le gré de ceux sur lesquels ils l'exercent, qu'ils s'appuient ou non sur des lois écrites, qu'ils soient riches ou pauvres, il faut admettre, d'après la position qui est la nôtre maintenant, qu'ils exercent leur autorité, quelle que soit cette autorité, en vertu d'une technique. Les médecins. Nous ne les tenons pas moins pour des médecins, qu'ils nous soignent de gré ou de force, qu'ils pratiquent des incisions, des brûlures, ou nous infligent quelque autre traitement douloureux, qu'ils utilisent des formules écrites ou non, qu'ils soient riches ou pauvres. Et nous n'hésitons pas le moins du monde à les appeler médecins, tant que les ordres qu'ils donnent relèvent d'une technique. Et tant que, nous purgeant et nous faisant, par un moyen ou un autre, maigrir ou grossir, ils le font seulement pour le bien du corps, le faisant passer d'un état pire à un état meilleur, et que, tous autant qu'ils sont, ils assurent la sauvegarde des patients à qui ils dispensent leurs soins. Voilà, j'imagine, dans quelle direction, et dans nulle autre, il faut chercher la droite et unique définition de la médecine, comme de n'importe quelle autre autorité. Parmi les constitutions, celle qui sera uniquement et au plus haut point la constitution droite, ce sera celle dans laquelle on pourra trouver des dirigeants doués d'une science véritable, et non pas simplement d'un semblant de science. Qu'ils exercent leur autorité en s'appuyant ou non sur des lois, avec ou sans l'agrément de ceux qu'ils gouvernent, qu'ils soient riches ou pauvres.
France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Quelle sorte de savoir faut-il avoir pour gouverner? C'est notre question ce matin et elle est posée à Platon, puisque Platon nous occupe toute la semaine, sa conception des choses politiques. Vous venez d'entendre une lecture de son dialogue Le Politique. C'est toujours Anaïs Isbert qui incarne l'étranger. En fait, le rôle classique de Socrate qui fait comprendre des choses à ses interlocuteurs, ceux-ci acquiescent. Ainsi, ce petit Socrate le jeune, c'était Nicolas Berger, notre réalisateur, qui acquiesce aux belles démonstrations de l'étranger socratique. Il y a une métaphore ici, importante, peut-être une des grandes métaphores du Politique, d'un dialogue où elles vont se succéder pour parler du roi, philosophe. C'est celle de la médecine. Le médecin peut nous faire mal dans les traitements qu'il nous inflige, mais c'est pour notre bien, ce qui nous rappelle que le philosophe roi peut faire un peu de mal aux gens de sa cité avec des mesures difficiles à supporter, mais c'est toujours pour le bien des gens, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors l'analogie avec la médecine, elle est récurrente chez Platon, entre la médecine et la politique, pour justifier, c'est-à-dire l'idée que la médecine s'occuperait du soin du corps et la politique est essentiellement du soin de l'âme. Et l'idée chez Platon, c'est qu'à chaque fois, ce sont des techniques donc qui requièrent un savoir spécifique contre la prétention démocratique à ce que chacun puisse exercer le pouvoir. Et pour Platon, en fait, dans ce passage-là, qui peut paraître très choquant, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est quel est le seul bon critère pour déterminer quel est un bon ou un mauvais gouvernant. Il nous dit qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pas combien il y a de gouvernants, si c'est une démocratie ou un régime avec une oligarchie. C'est pas s'il y a une contrainte, consentement, etc. Si c'est les riches ou les pauvres. C'est est-ce que ceux qui nous gouvernent le font au nom, en vertu d'un certain savoir. Et c'est pour ça qu'il évacue tous les autres critères et qu'il dit, bah oui, un gouvernant comme un médecin, il peut parfois forcer, contraindre ceux qu'il gouverne. Mais ça ne veut pas dire, il y a des commentateurs, Castoriadis par exemple, commente ses pages en disant que c'est atroce, la politique de Platon, c'est quelque chose de terrible. Mais en fait, Platon n'est pas en train de dire que dans un régime gouverné par les philosophes, tout le monde subirait des peines innommables, etc. Ailleurs dans le politique, il va insister sur le fait qu'il faut essayer d'avoir le maximum de concorde, d'amitié, de consentement entre tous les citoyens.
Mais toujours sur ce ton quand même, excusez-moi, je voudrais défendre un peu Castoriadis. On a le droit, on écoute bien Platon, vous nous expliquez très bien, mais enfin, ça reste des métaphores évoquant quelqu'un qui sait mieux que tout le monde, qui peut vouloir le bien de ce tout le monde, mais quand même pas en écoutant l'opinion de ce tout le monde. On est bien d'accord, c'est du platonisme, c'est une science qui peut parfois négliger franchement l'opinion. Et c'est vrai que voilà, Platon ouvre une ligne en philosophie politique qui déteste la démocratie, qui se méfie de l'opinion. Et de ses inventions, chez Castoriadis, c'est très très important, cette idée, philosophe du XXe siècle, que tout le monde a quelque chose à inventer, que la politique invente des choses, il y a une imagination créatrice dans l'histoire. C'est pas du tout le problème de Platon, et c'est vrai que Platon n'est pas la tasse de thé de tout le monde.
Oui, bien sûr. Après, l'idée, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec Platon, mais c'est de comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit et de pas le rabattre sur, en fait, des modèles politiques existants comme quelque chose de type tyrannique. Parce que pour Platon, le modèle de philosophe Rouen, c'est quand même l'antipode, l'opposé d'une tyrannie. Et quand on veut le rabattre dessus, du coup, parfois, on rate ce qu'il veut faire. Parce que, en fait, pour Platon, il faut mieux voir que dans les régimes existants, on a juste des modèles de domination et d'exploitation des gouvernants pour les gouverner. Que ça soit une démocratie, que ça soit une oligarchie, c'est comme ça que ça se passe dans les régimes existants. Dans la République, par exemple, on peut considérer que ce que Thrasymaque dit des rapports d'exploitation entre gouvernants et gouvernés, Platon est d'accord avec ça. Dans les régimes existants, c'est ça qui se passe. Donc il essaie de penser quand même à un régime où certes, oui, il y en a qui savent ce qui est bon pour l'être humain en général, et d'autres non. Ça, pour Platon, c'est un état de fait. Qu'il voudrait à tout prix réserver à une élite le savoir. C'est que c'est un état de fait que le savoir est tellement difficile à acquérir. Il demande un tel effort pour surmonter nos opinions, et des opinions qui le plus souvent sont fausses, qu'il est réservé qu'à quelques-uns. Mais c'est pas qu'il voudrait le réserver à quelques-uns, c'est que pour lui, c'est une limite de fait. Mais ça n'empêche pas que, pour lui, dans un régime gouverné par un philosophe, tout le monde serait heureux globalement. Et s'il y a de la contrainte, c'est marginalement et quand on ne peut pas faire autrement, mais comme dans nos régimes politiques, en fait.
Donc il y a quand même toujours ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Charlotte Murgier, pour Platon, c'est le modèle du savoir et de la compétence pour qualifier les vertus politiques, qu'il a encore est loin de faire l'unanimité dans la philosophie politique. Après la métaphore du médecin, il va y avoir celle du berger, qui veille sur son troupeau, là aussi, parfois, avec un peu de force. Mais peut-être que quand même la métaphore est plus douce, celle du pasteur ou du berger, que celle du médecin.
Je sais pas, elle est peut-être plus douce. En tout cas, ces métaphores ont en commun l'idée qu'on vise le bien de ceux dont on s'occupe. Par ailleurs, cette métaphore du pasteur n'est pas non plus le dernier mot du politique. Platon n'en reste pas là et le dialogue se termine plutôt sur une autre métaphore, celle du tissage. Mais Effectivement, comme l'a dit Anthony Bonne-Maison, l'important, c'est finalement la finalité de ce politique, hein, et qui vise le bien de ce dont il s'occupe. Et parfois, ce bien passe par des mesures effectivement contraignantes, désagréables. Alors, on les connaît, hein, dans la République, la communauté des femmes et des enfants, au moins pour deux des classes, c'est très violent. Et ou l'absence de propriété privée, le fait qu'on puisse pas décider des unions. Donc, il y a beaucoup de... Platon, effectivement, est autoritaire, hein, mais... On va pas le nier, mais voilà, c'est encore une fois, ça vise le bien de la communauté.
Alors j'y viens à cette métaphore du tissage. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui organise tout le temps l'histoire. Hein. C'est pas un tissage, un entrelac ou avec énormément d'imprévus. Hein. C'est quand même très organisé. Donc c'est dans le dialogue le politique. À un moment donné, l'étranger évoque la science qui a autorité sur toutes les autres et qui se préoccupe des lois comme de toutes les affaires de la cité. Elle les tisse toutes ensemble de la façon la plus droite. Et à cette science, il faut rendre justice, dit l'étranger, en lui donnant un nom commun, embrassant la totalité de sa fonction, celui de politique. L'étranger ajoute, notre homme politique confiera tout le monde à des éducateurs capables de s'occuper de cette tâche de sélectionner les bons et les méchants, et donnant lui-même ses prescriptions et en présidant à leur tâche, il sera comme le tisserand qui donne ses prescriptions et préside à la tâche des cardeurs, ceux qui travaillent la laine, et de tous ceux qui préparent ce qui est préalablement nécessaire à son tressage, en donnant tour à tour à chacun des indications sur la manière dont l'ouvrage qu'ils font sera, selon son jugement, approprié à l'entrecroisement qui est son œuvre à lui, le tissage. C'est très dirigé, cette affaire, quand même. Vous êtes d'accord avec moi, Charlotte Murgier? Indication, prescription, présider à cette tâche, connaissance de l'ouvrage qu'on veut faire. C'est pas un tissage dans ce que Claude Lefort, proche un temps de Cornelius Castoriadis, qui a été évoqué, appelait l'inconnu de l'histoire. Hein. C'est pas l'inconnu de l'histoire de Lefort et Castoriadis, hein.
Tout à fait, parce que le tissage est un art, hein, et un art, une techné, ça se fonde sur une connaissance, et c'est cette connaissance qui nous légitime à donner des ordres. Et donc la science politique, la science royale, est une science directive, hein, qui va diriger les actions dans la cité. Donc le politique comme tisserand, il tisse à la fois l'ensemble des activités économiques, par exemple, et puis surtout, il va tisser ensemble les natures, puisque les êtres humains, grosso modo, sont divisés en deux grands types de tempéraments, le tempérament plutôt doux, pacifique, modéré, et le tempérament fougueux, belliqueux. Mais toute la tâche pour faire l'unité de cette diversité qu'est une cité, c'est d'arriver à réunir ces natures opposées, faire qu'elles puissent s'accorder. Alors, s'accorder, et donc on va les tisser ensemble, tisser par un lien divin, celui de l'opinion droite, donné par l'éducation. Donc la grande tâche du politique, c'est d'éduquer.
C'est d'éduquer, oui.
Et puis par les liens humains, que sont les mariages, puisqu'on va s'efforcer de faire ensemble que ces tempéraments opposés se réunissent, hein, pour avoir le tissu social le plus harmonieux possible.
Donc il y a des conflits possibles, etc. Mais là encore, par rapport à d'autres traditions, d'ailleurs parfois... un peu jugé pestiféré, enfin pas ici, hein. Nous on trouve que Machiavel c'est quand même un très grand penseur du politique, mais chez Machiavel par exemple, plus tard, les conflits, il est clair que le prince, mais c'est d'abord un penseur de la République, hein, Machiavel, plus que de la monarchie nettement, il faut en République tisser ensemble des intérêts, jouer des conflits, mais chez Machiavel, qui intéresse étant Lefort évoqué plus haut, évidemment, c'était l'idée de construire quelque chose qui n'est pas préalablement pensé. Au contraire, tout est quand même préalablement pensé chez Platon, dans ce tissage.
Alors, Disons que sur le principe, effectivement, il y a des grandes tendances pour Platon dans l'humanité, entre voilà, une tendance plutôt à l'impétuosité, à la vertu du courage, et une tendance plutôt à la modération. Et il faut les tisser ensemble, parce que sinon, en fait, elles s'éloignent l'une de l'autre et elles créent toujours, ce qui est le grand problème de Platon, du dissensus dans la cité. C'est-à-dire que c'est le problème de Platon, c'est que dans les cités existantes, comme il dit dans la République, il n'y a pas une cité, mais il y en a plusieurs, en fait. Les tendances s'opposent. Et donc, toute la tâche du politique, et ça... enfin. Même si dans le détail, on peut discuter ce modèle, c'est quand même de faire en sorte que des gens qui auraient tendance à s'éloigner l'un de l'autre, des tempéraments qui auraient tendance à s'éloigner l'un de l'autre, puissent coexister. Il ne s'agit pas de les homogénéiser, de rendre tout le monde identique, mais de faire de la différence une vertu.
Oui.
Et notamment, il dira dans les magistratures, quand après on distribue les magistratures, donc notamment, ça renvoie sûrement aux arts subordonnés à la politique, aux politiques, que sont la rhétorique, l'art militaire, et l'art judiciaire, il va falloir les confier ou bien à des gens qui arrivent en eux-mêmes à avoir ces deux tempéraments à égalité ou à plusieurs magistrats qui se compensent l'un l'autre. Donc il y a cette dimension-là qui est quand même faire une vertu de la différence et on ne réduit pas cette différence. Et deuxième point par rapport à ce que vous disiez, il y a quand même toute une réflexion dans le politique sur le sens du kairos, c'est-à-dire du moment opportun, de l'adaptabilité aux circonstances particulières qui est le propre de l'art politique. Parce qu'au fond, Platon dit l'art politique, c'est ce qu'il appelle un art prescriptif, c'est-à-dire il est ni purement théorique, ni purement pratique, mais c'est celui qui sait à quel moment utiliser les autres arts subordonnés dont je viens de parler.
Les autres ne savent pas.
Alors les autres savent, ils savent quelque chose, ils savent quel est leur art. C'est-à-dire le rhéteur, il sait quels sont les bons outils pour persuader une foule. Le juge, il connaîtra les lois et son art, ça sera de savoir comment les appliquer. L'éducateur, il saura. Donc ils ont une connaissance simplement. Ce que Platon leur dénie, c'est la connaissance de savoir à quel moment utiliser, mettre en œuvre leur savoir. Donc il y a quand même une sens du kairos, de l'adaptation aux circonstances, à la mutabilité des affaires humaines chez Platon. Il n'a pas une conception complètement figée de l'histoire. C'est parce qu'il y a des principes immuables sur lesquels elle repose que son application n'a pas une part d'adaptabilité. Et du coup, c'est tout l'art du politique, de savoir s'adapter aux circonstances.
Les hommes d'affaires d'hier sont devenus milliardaires. En quelques décennies, ils ont conquis la terre. Ils règnent sans partage sur le monde d'aujourd'hui. Désormais, mis au pas toutes les démocraties. Ils contrôlent les marchés, ils contrôlent les médias. Ils sont les rois du monde, on les nomme oligarques. Fabricants de misère, de conflits et de guerres. Sur la misère du monde, leur entreprise prospère. Oligarchie, oligarchie. Elle règne sans partage sur le monde d'aujourd'hui. Oligarchie, oligarchie. Elle a pris le pouvoir, elle a pris le pouvoir. Oligarchie, oligarchie. Elle a tellement de blé, rien ne peut plus l'arrêter. Oligarchie, oligarchie. Elle contrôle le destin de toute l'humanité. Jadis millionnaires, aujourd'hui milliardaires. Ils asservissent les peuples et contrôlent les états. Ils bafouent les droits de l'homme, soutiennent les dictatures. S'associent aux tyrans, s'associent aux mafias. Oui, au nom du business, hey, ils enfreignent les lois, hey. Certains sont même devenus aujourd'hui chefs d'état, hey. Ils contrôlent ta vie, hey, partout des caméras, hey. C'est plus toi qui décides, c'est eux qui font la loi. Oligarchie, oligarchie. Elle règne sans partage sur le monde d'aujourd'hui. Oligarchie, oligarchie. Elle a pris le pouvoir, elle a pris le pouvoir. Oligarchie, oligarchie. Elle a tellement de blé, rien ne peut plus l'arrêter. Oligarchie, oligarchie. Elle contrôle le destin de toute l'humanité. Règne l'oligarchie, elle dirige le monde, contrôle l'économie. Elle exploite la misère et fait d'énormes profits. Elle a tellement de blé, rien ne peut plus l'arrêter. Pour protéger son fric, hey, ses armées de mercenaires, hey. Les armées font la guerre aux quatre coins de la terre, hey. Elle compte sous les dollars, hey, elle a pris le pouvoir, hey. Elle contrôle le destin de tout le genre humain. Oligarchie, oligarchie. Elle règne sans partage sur le monde d'aujourd'hui.
C'était le groupe Les Sales Majestés en 2023 qui chante Oligarchie. En évoquant un problème qui n'était pas du tout celui de Platon aujourd'hui, mais qui est intéressant, qui est aussi celui de l'argent au pouvoir, au cœur du pouvoir politique. Je vous remercie beaucoup Charlotte Murgier et Anthony Bonnemaison. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au fait de prévoir et de prévenir. Voici le pourquoi du comment. «
Comment la prévention agit-elle dès maintenant ? La prévention semble logiquement être simplement une forme de rapport à l'avenir un peu plus élaboré, un peu plus intense, un peu plus pénible aussi peut-être que la prédiction et la prévoyance. Nous prédisons, nous prévoyons l'avenir, c'est d'abord un rapport à peu près calme, théorique à ce qui pourrait se passer. Et nous faisons confiance, heureusement, au progrès de la science pour cela. Déjà, passer de la prédiction, de la prévision à la prévoyance, c'est un tout petit peu plus inquiétant. La prévoyance nous rapporte déjà à des risques à venir. Nous mettons de côté des réponses futures à des événements futurs. Nous devons faire des réserves, comme la fourmi, par opposition à la cigale, comme les stocks dans certaines économies qui définissent les économies riches, qui ont des réserves par rapport à ceux qui sont exposés sans ressources aux risques de l'avenir. Mais la prévention semble alors simplement un rapport à l'avenir de plus. Il faut d'une certaine façon non seulement essayer de répondre aux risques futurs, mais essayer qu'ils ne surviennent pas. La prévention consiste à éviter le risque futur, en quelque sorte, dès maintenant. Essayer qu'il ne faire que, ben oui, par exemple, on construit des barrages, on se vaccine pour que tel ou tel événement négatif, la catastrophe naturelle ou la maladie, ne survienne pas du tout. Ainsi, se vacciner, ce n'est pas exactement se préparer. Se vacciner, c'est prévenir. C'est déjà agir dès maintenant pour que le risque ne survienne pas. Il y a peut-être donc une différence de nature entre la prévoyance d'un côté et la prévention de l'autre. La prévention est en effet une action dès maintenant. Et c'est pourquoi aussi elle est si difficile socialement, politiquement et même individuellement à pratiquer. Déjà, prévoir, c'est un tout petit peu pénible et nous sommes tous un tout petit peu cigales. Nous voulons vivre dans la jouissance de l'instant présent, se représenter le futur négatif. C'est une souffrance, c'est insupportable par certains côtés. Mais si, en plus, il faut s'infliger des risques présents, une petite souffrance, même pour en éviter une plus grande, comme la piqûre d'un vaccin ou la démonstration de son innocuité, du fait qu'il ne nous nuira pas, pour éviter un risque encore incertain. Alors là, c'est beaucoup nous demander, avons-nous l'impression. Mais justement, cette résistance à la prévention nous montre aussi sa force. C'est que la prévention, et nous sommes entrés aujourd'hui dans l'âge de la prévention est bien, en effet, une action présente. C'est une action peut-être d'ailleurs non seulement pour éviter le pire, mais une action qui nous rend plus forts, une action qui nous rend meilleurs en réalité. De même que la santé, selon ce grand philosophe de la maladie qui était Georges Canguilhem, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est la capacité à supporter, par un état de force supérieur en quelque sorte, de supporter le négatif quand il survient. L'individu en bonne santé, c'est celui qui est capable de supporter un rhume et de le traverser. Un rhume est peut-être des maladies un peu plus graves, alors que l'individu fragile, c'est celui que la moindre pichenette rendra gravement malade. Ainsi, la prévention n'est pas seulement la réponse future et même seulement présente à un risque déterminé, c'est ce qui nous rend plus forts collectivement. La prévention, la santé et la santé publique avant tout, ce n'est pas seulement la réponse à des maladies, à des épidémies futures, c'est l'amélioration de notre qualité de vie, c'est l'amélioration de notre vie individuelle et sociale, c'est en vivant de manière saine et heureuse, joyeuse aussi, que l'on résiste à l'avenir. Ainsi, la prévention nous rend plus forts dès maintenant. La prévention n'est pas un surcroît de peur, mais un surcroît de force. Elle est la santé individuelle et publique, collective et politique. La prévention doit être l'outil de l'avenir.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet et Axel Dubois. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.